Briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange. Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio B avec
Agnès,
Cathy,
Fabrine,
Philippe,
Francky
et Florine. Une émission collective à géométrie variable des bénévoles de la Grange aux Parapluies, association atypique et espace de vie sociale, qui vous propose tous les mois un éclairage sur un thème qui nous tient à cœur. C'est la rentrée! Youpi youpi youpi! Au moment où on enregistre l'émission, ben c'est déjà l'hiver, il pleut, à peine débarrassé des moustiques, on se tape des angines et on trouve pas de ministre. Bon, fuyons tout ça et promenons-nous dans les...
dans les bois, à pied, à cheval, à vélo, en voiture, sans modération. Ce petit bois que je vais évoquer est un havre de paix. Lorsque je reviens de la ville où je travaille, lorsque je rentre de voyage, lorsque je reviens d'une réunion, tel un phare à l'horizon, il y a ce petit bois. Et c'est tout un symbole. Je suis de retour à la maison. Je n'ai pas encore atteint Montalibord, mais les signes sont là. Et comme si mon cœur et mon corps gagnaient en sérénité, je ralentis l'allure. Non pas que je ne sois pas pressée de rentrer, mais juste pour apprécier le moment, le lieu et tout ce qui peut survenir. Nul besoin d'un panneau 30 km/h, c'est presque ma vitesse. Je suis à l'affût d'un lapin de garenne avec son trapon blanc, de chevreuils qui bondissent et traversent la route pour s'enfiler dans les taillis. L'autre soir, j'ai même vu un blaireau. Un autre avantage de cette allure, c'est découvrir juste là, sans même avoir à s'enfoncer plus profondément, des fleurs. Primevère, pervenche ou anémone au printemps, muguet qui tapisse les talus, mais aussi les fougères qui s'élèvent fièrement. Il suffit aussi d'ouvrir sa fenêtre et de respirer aussi lentement que la vitesse de la voiture pour sentir tous ces parfums boisés d'humus, surtout après la pluie, ainsi que celui adoré des fleurs de robinier faux acacia. Le spectacle vient aussi de ces rayons de soleil qui jouent à travers les feuilles et les branches, de ces gouttes de pluie qui tombent telles des perles de lumière. Quant à Louis, Elle est aussi sollicitée par le bruit du vent dans les branches, les chants des oiseaux. L'invitation est si forte que parfois, souvent même, je fais une pause, gare la voiture sur cette petite place aménagée et fais quelques pas sur ce chemin qui attire. Je sens le vent sur mes joues, mes pas s'enfoncent un peu dans les feuilles mortes. Je cueille ces fleurs dans un bouquet champêtre, comme du temps où, petite fille, je rentrais de l'école à pied. Chacun sa Madeleine de Proust. Je crois bien que pour moi, c'est ce petit bois. Et lorsque je reprends ma route, là, après un virage, je découvre l'étang de Montalibord et au loin la ferme. Je suis presque arrivée à Bonport.
Y a un arbre pigeon vole, mon cœur vole.
Y a un arbre, je m'y colle dans la petite voie de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Y a un arbre pigeon vole dans la petite voie de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Y a nos 15 ans qui s'affolent dans la petite voie de Saint-Amand. Sous l'arbre sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envolent nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Y a un arbre, pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Y a un arbre, pigeon.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Bon, comme on parle de bois, moi j'ai pensé à l'ONF. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'est l'ONF ?
L'Office national des forêts.
Office national des forêts. Donc l'avantage, c'est qu'Office national, donc dedans il y a national, donc on a la chance dans notre beau pays qui parfois est centralisé, mais d'avoir des choses publiques, puisque c'est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, qui gère 25% des forêts de France.
Seulement 25%,
puisque certaines sont effectivement auprès de propriétaires privés qui les utilisent à bon escient ou à mauvais escient, mais comme elles le souhaitent. Donc, effectivement, l'ONF qui a été un peu dans les turbulences à une époque où, effectivement, je pense, les 75% se voyaient bien continuer à faire ce qu'ils voulaient. Mais bref, on a la chance d'avoir en France depuis les années 60, ce qui montre quand même que la préoccupation écologique et durable ne date pas d'avant-hier ni d'hier et qu'elle est du coup importante. Des gens qui se posent la question du maintien effectivement de la ressource en bois. Et l'avantage dont on entend beaucoup parler avec la décarbonation et compagnie, c'est qu'effectivement le bois permet effectivement de trois façons de permettre effectivement de générer du carbone. Donc est-ce que vous savez ce que sont les trois S de la forêt ? Bon, c'était un peu un piège parce qu'en fait c'est les trois façons de capter du CO2 ou d'en produire ou d'en garder, puisqu'en fait il y a trois vertus dans la forêt. Le premier, c'est la séquestration, puisque les forêts en tant que telles, par un mécanisme naturel de photosynthèse, je ne suis pas fort en sciences naturelles, mais voilà, la première chose, c'est quand on a des forêts, on capte du CO2, donc c'est la première chose, on capte le CO2 de l'atmosphère. Le deuxième S, c'est le stockage, donc même une fois coupé, l'arbre a encore en lui du CO2, donc effectivement, ça contribue toujours de la même façon à... capter ce CO2. Et la troisième fois, c'est la substitution, puisqu'en fait, en utilisant le bois comme énergie ou comme matériau de construction, on se substitue à des matériaux, le fer, le métal, le béton, qui sont plus consommateurs d'énergie et qui sont donc moins bons pour la planète. Donc les trois S, c'est effectivement ces trois niveaux vertueux du cycle du bois, sous réserve, comme pour plein de choses, qu'effectivement, on entretienne comme il faut les forêts, qu'on les plante, qu'on les coupe pas à ras, mais qu'on les entretienne, qu'on mette des essences assez rares pour qu'effectivement le bois se régénère. Voilà. Et dernière petite chose, est-ce que vous savez ce qu'est un arbre habitat ?
C'est un arbre qui permet de créer des nids, qui est des trous pour les écureuils ou les choses comme ça qui habitent l'intérieur, les chouettes.
Eh bien, tout à fait, Agnès, effectivement. Je suis allé sur le site de l'ONF, dont je fais la pub, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui sont dessus, sur le côté pédagogique et information. Il y a un onglet Rhône-Alpes Auvergne. Et donc, j'ai appris sur ce site qu'il y avait 25 000 arbres habitats. Donc, c'est des arbres que volontairement l'ONF préserve sur ces forêts pour effectivement, donc c'est des arbres morts, des arbres avec des cavités ou des grands arbres particulièrement majestueux. Et ils sont effectivement préservés pour les oiseaux, les insectes. Et ils resteront de toute façon sur pied, même morts, pour effectivement continuer le cycle de la nature. Donc, si vous voulez vous documenter sur toutes ces choses-là et même plus, allez en forêt. Et s'il pleut trop ou vous avez peur des chasseurs, allez sur le site de l'ONF.
Mais Philippe, il me semble que tu as commis une petite erreur tout à l'heure. Je pense que c'est juste un lapsus. J'ai entendu ou j'ai cru entendre que la forêt, le bois, produisait du CO2. Et je ne suis pas sûr que c'est ce que tu voulais dire.
Effectivement, ma langue a fourché, ma tronçonneuse a ripé. Le bois, lors de l'exploitation des arbres, effectivement, stocke et capte du CO2.
Jamais une statue ne sera assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier. Et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés. Pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais, je changerai la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé, responsable anonyme de tout le sang versé. Fatigué, fatigué, fatigué du mensonge et de la vérité que je croyais si belle, que je voulais aimer et qui est si cruelle que je m'y suis brûlé. Fatigué, fatigué, fatigué d'habiter sur la planète Terre, sur ce brin de poussière, sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Promenons-nous dans les bois. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Nous avons tous la ritournelle bien connue dans la tête. Et nous avons tous été biberonnés au conte du petit chaperon rouge et du loup bien mal attentionné. Toutes les lectures ont eu cours. De la plus naïve à celle de la psychanalyse qui enjoint tous les enfants à se méfier du grand méchant loup. Et puis cet été, j'ai fait la connaissance de Baptiste Morisot, philosophe, poète qui piste les loups de France et de Navarre. Morisot, philosophe, s'intéresse à la question de l'écologie, du sauvage, mais bien plus, il s'intéresse à la question du vivant et à celle des manières d'être vivant. Loin d'une apologie du sauvage et d'un retour à la nature qui serait insensé, il propose une politesse envers les différentes manières d'être vivant sur cette terre et invite à célébrer une cosmopolitesse, c'est-à-dire la rencontre et le respect des autres espèces non humaines à prendre ou plutôt reprendre leur place dans le monde. Il s'agit de sortir de l'injonction faite à l'homme par Descartes de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Le monde ainsi perçu n'est plus celui des humains exclusivement, mais redevient celui de tous, notre monde à tous. Ainsi, il nous invite à l'accompagner dans ses expéditions de pistage des loups, et nous sortons émerveillés de la lecture de son ouvrage « Manière d'être vivant, enquête sur la vie à travers nous », dont je vous livre ici quelques lignes pour vous appâter. Vous êtes prêts ? 22h, on voit comme en plein jour. On s'approche de la combe pour qu'elle porte nos cris. Le silence est aussi parfait que le reste. Je lance un premier hurlement qui rebondit dans la combe et résonne encore longtemps après que j'ai fermé la bouche. Nous attendons. Le vent est glacé ici, hors de l'abri. Le temps s'est densifié. Mais le suspense n'a même pas le temps d'exister. Après quelques secondes, un loup répond. C'est la foudre habituelle, l'émotion est intacte, le mélange d'extraordinaire et d'évidence. Mais comment est-ce possible qu'un loup sauvage, inconnu, réponde à nos appels ?
Et simultanément, pourquoi pas, nous sommes des vivants comme lui, partageant des puissances vocales et des problématiques vitales. Il est très loin, c'est saisissant. Son hurlement dans le vent semble venir de l'ouest, plein ouest, sur la montagne d'en face, à plus de 5 km, peut-être même sur la crête suivante. Le son nous arrive dans le vent, comme un spectre, peu localisable, comme d'un autre monde, si loin, et pourtant perçant la malédiction de la distance. Son chant est long, mélodieux, interrogateur, presque lascif. On sent presque la joie de moduler la longue plainte, la joie de hurler, d'annuler la distance, d'aller à la vitesse du son, transcendant avec le corps les limites du corps. La joie de s'entendre et de se retrouver dans ce paysage nocturne, désolé, solitaire. Voilà, courez-y vite à la librairie, achetez le magnifique livre de Baptiste Morisot. Bonne lecture!
Je le connais, ce chêne. Je le connais, il retient l'horizon. Il nous protège. Même quand il neige sur les fleurs de printemps de notre enfance. Mémoire sauvée du vent entre les branches et à travers le temps. Il me connaît, ce chêne. Il me connaît depuis bien longtemps. Il n'oublie rien, le chêne. Je me déchaîne pour remonter le temps de notre enfance. Mémoire sauve du vent entre les branches et à travers le temps. Sur le chemin des conifères je grimpais, sur le toit des conifères je rêvais de vivre en accéléré.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.
En ce mois de septembre, je vous emmène dans les bois grâce au tableau d'Antoine Chaintreuil qui s'appelle Le Boulot, qu'il réalise dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui se trouve au musée de Brou à Bourg-en-Bresse. Donc cette œuvre est un petit format, 24 cm de haut sur 12 de large, qui montre un jeune boulot au premier plan, au centre de l'image. C'est un paysage d'automne. Le boulot a un tronc blanc qui éclaire l'image, ses branches ne comptent plus que quelques feuilles brunes, alors que d'autres jonchent le sol. Le fond est occupé aux deux tiers par un ciel bleu-gris, dans lequel on distingue un vol d'oiseaux, des canards ou des oies. En bas à gauche, on voit une partie d'un banc coupée par le cadre. Cette œuvre de Chaintreuil me touche, elle me rappelle en effet un voyage en train au début des années 90 à travers la Biélorussie où les forêts de bouleaux défilaient sous mes yeux. Ce tableau, au format modeste, rend compte d'une certaine mélancolie, des promenades automnales dans la campagne baignées par les dernières couleurs chaudes de l'année dans un air frais revigorant. Ce tableau est intéressant car il est caractéristique de la peinture de Chaintreuil, des paysages. Ce motif le rapproche de l'esthétique romantique du début du XIXe siècle, quand le paysage, justement, reflète les états d'âme de l'artiste. Toutefois, Chaintreuil s'éloigne du romantisme par une représentation bien plus réaliste de la nature, sans réel souci de l'embellir et sans exagérer non plus les symboliques liées à la nature. Avec ce petit tableau, on comprend mieux aussi la vie de Chaintreuil qui a souvent connu la misère, la vie de bohème à Paris. Le Boulot est une toile qui place Chaintreuil comme précurseur de l'impressionnisme. En effet, il trouve dans la nature ses sujets et va profiter comme ses contemporains de deux révolutions majeures. Au XIXe siècle, la première est le tube de peinture qui est mis sur le marché, qui va permettre aux peintres de quitter leur atelier pour peindre in situ, en extérieur. Et puis, deuxième révolution, c'est le train. Ce nouveau moyen de transport qui permet aux peintres et à tous ses contemporains de quitter la ville et de se rendre à la campagne, à la mer, pour peindre des paysages. Pensez justement que la gare est une nouveauté dans ce décor urbain de la ville du 19e siècle et devient la gare également un sujet apprécié des peintres. Bon, pour compléter cette chronique radiophonique, je vous invite bien évidemment à aller voir Le Boulot à Brou, mais aussi à vous rendre à Pont-de-Vaux, où est né l'artiste en 1814 et où le musée porte son nom, le musée Chaintreuil. Vous pourrez voir jusqu'au 3 novembre l'exposition de Tony à Chaintreuil, un paysagiste à l'aube de l'impressionnisme, et mieux vous rendre compte de l'importance de la modernité d'Antoine Chaintreuil, ami de Corot, Courbet, Manet, ainsi que de Baudelaire et de Zola. C'est Chaintreuil qui organise notamment le premier salon des refusés en 1863 à Paris pour faire la nique à l'académisme en proposant notamment le fameux déjeuner sur l'herbe de Manet. Vous savez, ce pique-nique en plein milieu d'une forêt.
Dans le petit bois de trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi, nous deux. On était partis pour trousse chemise, guettés par les vieilles derrière leurs volets. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à trousse chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise, déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu d'un élan superbe conjuguer le verbe aimer son prochain.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
L'énergie des arbres. Les arbres, malgré leur silence apparent, sont vivants. Nous pouvons donc communiquer et échanger avec eux. À celui ou celle qui observe, qui écoute, les arbres semblent nous parler et nous délivrer un message. S'immerger quelques heures en forêt est un instant d'introspection nécessaire à notre âme et à notre corps. Plus que de pénétrer dans une forêt, la sylvothérapie appelle à laisser la forêt entrer en soi. Une manière de reprendre contact avec la nature. Une façon aussi d'éveiller nos sens et développer nos capacités d'auto-guérison. Formalisé au Japon dans les années 1980, le Shinrin-yoku gagne du terrain dans nos sociétés occidentales en quête de sens. C'est ce que nous appelons donc la sylvothérapie chez nous. Les humains entretiennent un lien particulier avec les arbres. On peut l'éprouver au cours d'une promenade en forêt dont on revient avec une immense sensation de bien-être. Aussi, l'art de faire un câlin, de communiquer avec un arbre, se développe en France. La sylvothérapie est une pratique de soins qui est devenue courante. Et donc bien avant que les Japonais n'en découvrent les atouts avec leur Shinrin-yoku et ne lui donnent ce nom, d'autres peuples profitaient instinctivement de cette immersion proche de la méditation. Par exemple, les Amérindiens pratiquaient depuis toujours la sylvothérapie. Pour eux, le lien avec la nature est un art de vivre. Alors, choisissez, chers amis, le bouleau, pour retrouver l'estime de soi, le châtaignier, qui est l'arbre du tout possible, le chêne vert, pour trouver une certaine quiétude, l'érable, pour trouver l'apaisement, ou encore le hêtre, pour simplement prendre confiance en soi. Alors comment ressentir l'énergie d'un arbre? Techniquement, il faut se positionner face à l'arbre. De préférence face au nord, donc vous mettez le sud dans votre dos, vous posez les deux mains de chaque côté de l'arbre, sans exercer de pression particulière, en restant détendu dans tout votre corps, fermez les yeux, respirez lentement par le nez, expirez lentement. Connectez-vous à la nature et faites-le finalement de la manière la plus simple qu'il soit. Allez, promenons-nous dans les bois pendant que l'énergie est là.
De septembre, des briques et des pavés, promenons-nous dans les bois. J'ai choisi d'interviewer quelques personnes pour savoir ce que cela leur évoque. Bonjour.
Bonjour. Alors pour moi, tout ce qui est promenons-nous dans les bois, c'est quand même quelque chose qui me rapporte à ce que je fais assez fréquemment, c'est-à-dire que je suis une petite fille de la campagne. Donc ça n'a pas été rare qu'avec mes parents, mes grands-parents, on se promène en forêt, que ce soit en vacances, mais aussi à côté de chez nous, où on a quand même ce rapport à se promener donc, dans des chemins forestiers, se retrouver dans des clairières, ou aussi se perdre, parce que ce que j'aime bien raconter, c'est aussi le fait qu'on a souvent un oncle, un papa, qui est adepte du « Oh, j'ai trouvé un raccourci, je sens bien ce chemin-là », et on se retrouve complètement perdu dans cette forêt. Mais c'est aussi de très bons souvenirs, puisqu'on se retrouve à vraiment s'ouvrir à la nature qui nous entoure, en marchant sur différents sols, que ce soit de la mousse, de l'herbe, des feuilles, en automne, au printemps, donc on va pas avoir la même texture sous les pieds, mais aussi écouter tous les bruits qui nous entourent, que ce soit au niveau aussi de la faune notamment. Et puis maintenant, c'est quelque chose qui me rapporte aussi au fait que je suis donc propriétaire de chevaux, et que par défaut, on n'habite pas à côté de la mer, donc on a toujours ce cliché un peu de ces cavaliers qui se promènent sur la plage. Mais moi, mon petit plaisir avec mes chevaux, c'est d'aller me promener dans les bois, puisqu'on y est assez au calme, qu'il y a plein de possibilités donc de se promener, qu'on est à l'ombre, protégé du vent, un peu du soleil, mais aussi de la pluie.
Alors, est-ce que c'est un petit peu la liberté pour toi, la forêt ?
Eh ben totalement, puisque j'ai aussi l'habitude, comme j'ai deux chevaux et que je suis pas tout le temps accompagnée pour emmener mes chevaux en balade, de monter un seul de mes chevaux et avoir le deuxième qui sont... j'ai quand même de la chance, parce que déjà les chevaux sont assez grégaires, mais aussi mes chevaux s'apprécient beaucoup. Et j'ai la possibilité de pouvoir emmener mon deuxième cheval avec nous en liberté. Et je sens que c'est aussi un plaisir pour eux, parce que c'est quand même des gros animaux, donc j'ai aussi la possibilité de pouvoir les emmener en balade sur la voie verte, mais là on va croiser beaucoup plus de monde, et ce que je peux comprendre, les gens peuvent être un peu plus apeurés par ces grosses bêtes de 500 kilos, donc je me permets pas de les mettre en liberté sur ce type d'endroit, mais contrairement dans la forêt, là on a quand même plus de liberté, et eux tout ce qu'ils veulent c'est s'amuser avec leurs copains et galoper comme des zinzins.
Et est-ce que tu as fait, enfin, rencontré des animaux ou une anecdote qui serait un petit peu cocasse à nous raconter?
Alors, j'ai déjà rencontré des animaux. En effet, c'est là aussi qui est chouette d'être à cheval, c'est que bah, ça reste quand même des animaux qui sont pas des prédateurs, donc ils s'amusent pas à aller renifler n'importe quoi aussi. Donc, il y a une certaine, ils sont assez apaisés, et je pense que ça peut aussi être en rapport avec les animaux qu'on peut retrouver dans la forêt. Donc je suis déjà tombée nez à nez avec des chevreuils, des lapins, des renards qui sont totalement sereins en la présence de chevaux. Donc c'est très chouette parce que je me suis déjà retrouvée très près de ce type d'animaux-là. Et même si on pouvait être autant mes chevaux que être surpris, et ben il y avait quand même pas une forme de fuite, et c'était assez intéressant parce qu'on pouvait quand même les voir de près. Puis après, j'ai aussi rencontré des branches, notamment. Ça peut m'arriver dans le détour d'un chemin, galoper pleine balle et me retrouver nez à nez avec une branche en plein visage. Mais ça, c'est les risques de la forêt.
Eh bien, merci pour ce témoignage.
Briques et pavés, l'émission qui dérange.
Eh bien, notre deuxième témoignage. Bonjour.
Bonjour.
Donc notre thème de ce mois-ci, c'est « Promenons-nous dans les bois ». Qu'est-ce que cela t'évoque ?
Eh bien, moi, ça m'évoque des petites balades, surtout le week-end. Hein, pourquoi pas aussi en semaine, tôt le matin, voilà, dans une belle forêt qui est à côté de chez moi, qui est assez apaisante. Hein, j'y vais régulièrement pour me promener et profiter de cette nature et des animaux environnants qu'on peut entendre, tels que des oiseaux, et pourquoi pas bah, tôt le matin, les petites biches ou les cerfs.
Et est-ce que tu fais que de la promenade? Est-ce que tu vas à la cueillette de champignons
Alors oui, moi je fais un peu de tout, surtout la cueillette des champignons, avec mon petit panier, voilà. Bah, ça c'est surtout l'automne, hein, les petits champignons par-ci par-là, pour ensuite après bah, faire des petites cuisines, hein, ça c'est voilà, et puis après manger ces petites soupes ou ces petites préparations, et ça me rappelle, il y a une petite odeur de la forêt qui s'échappe de ça.
Mmh. Et est-ce que tu as une anecdote sur une promenade en forêt, un événement précis?
Pas forcément, si, allez, peut-être tôt le matin, encore une fois, ça devait être un jeudi. Je me souviens, j'étais allé comme ça, j'avais pas forcément envie d'y aller parce qu'il faisait un peu froid. Puis au final, j'y suis allé me balader et je suis tombé nez à nez perdu dans la forêt en face d'une biche, mais très proche, quoi, qui a levé la tête, qui m'a regardé. Et on s'est regardé comme ça quelques instants, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était. J'ai l'impression que c'était assez long. Et puis elle est repartie gambader tranquillement, sans être apeurée par moi, pour le coup.
Et est-ce qu'il y a une saison que tu préfères en forêt ?
Moi, j'aime beaucoup l'automne. L'automne, un peu l'hiver aussi, mais quand il y a les feuilles qui crissent sous mes pas, ça fait une belle chanson, une belle mélodie. J'aime beaucoup. Et il y a également le printemps. Donc, quand justement ces feuilles qui sont tombées repoussent, là, il y a vraiment une atmosphère, une ambiance qui est très plaisante.
Ok, très bien. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Au revoir.
Au revoir.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. Existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer.
à genoux, fais passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses,
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Chers amis de Radio B, je suis à présent sur le terrain à Saint-Julien avec Laurent, bûcheron bénévole et fervent adepte du chauffage au bois, et ce, depuis plusieurs décennies. Pour commencer, nous allons faire un petit atelier vocabulaire forestier. Laurent, en quelques mots, peux-tu me donner les définitions des mots suivants? Qu'est-ce qu'est un chêne têtard?
Un chêne têtard, ça doit être un chêne qui pousse dans les buissons. C'est-à-dire qu'il est, il est moins haut que les chênes de forêt et plus de branches, mais il pousse moins en hauteur.
Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'est de l'aubier? Tu me l'avais dit et moi je savais pas ce que c'était.
Alors l'aubier, c'est la partie extérieure d'un tronc, et quand on abat des arbres, si on les laisse au sol trop longtemps, c'est ce qui pourrit en premier, c'est le contour. Ça fait 3-4 cm d'épais à peu près.
Qu'est-ce qu'est un moule quand on fait du bois?
Ah, alors un moule, c'est une unité de mesure qui est utilisée chez nous couramment. C'est 1,33 m au cube.
Alors encore un mot qui est un peu mystérieux pour moi, parce que je l'ai cherché en plus sur un dictionnaire et je pense que c'est du patois. Une frâche, c'est quoi?
Ah, alors la frâche, quand on abat un arbre, c'est la cime. Donc les bûcherons, ils achètent le tronc. Et ce qui reste en haut, les petites branches, c'est la frâche.
Et plus compliqué, vu que tu as eu rebond jusqu'à maintenant, qu'est-ce que l'affouage?
Ah, alors l'affouage, c'est... dans certaines communes, ça existe. C'est, comment dire, les gens, par exemple, quand il y a des forêts domaniales, comme à Seillon, les gens, ils achètent une parcelle dans la forêt où ils ont le droit d'aller couper le bois qui est marqué par les forestiers. Donc, ça s'appelle les affouages.
Ouais, c'est tout à fait ça, et effectivement, c'est dans les forêts effectivement qui sont propriété des communes,
voilà.
Où en fait on donne un droit aux gens de finalement d'aller servir dans le bois, et en fait la contrepartie du coup c'est qu'ils entretiennent la forêt.
Voilà.
Et ben merci.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.
Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet effectivement maintenant du bûcheronnage. Laurent, grosso modo, chaque année, tu consommes combien de bois pour ton chauffage?
Environ 16 stères, parce que finalement, on chauffe quasiment 8 mois par an, hein, de octobre à avril-mai, suivant les années. Et je consomme 2 stères par mois, à peu près. J'ai une cuisinière à bois qui marche en permanence jour et nuit, et un gros poêle dans la salle à manger que j'allume quand il fait vraiment trop froid dehors. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a comme essence de bois de chauffage, en fait, en Brest? Qu'est-ce que tu as comme sorte de bois?
Alors en Bresse, on a principalement... dans les bons bois, on a beaucoup de chênes, de charmilles, du frêne aussi. Et dans les bois moins nobles, en bord de ressources par exemple, on a de la verne, du saule et du peuplier.
On en a parlé un peu tout à l'heure avec les questions, puisque c'était un petit peu par rapport effectivement à l'utilisation qu'on peut avoir du bois. Ce qui est intéressant, on l'a vu une fois en faisant du bois ensemble à Foissia, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui se perd dans le bois. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux m'expliquer du tronc à la brindille, qui sert de quoi?
Alors, l'avantage pour le bois de chauffage, c'est qu'on peut servir de tout. Si on récupère jusqu'aux petites branches de 2 cm de diamètre, eh ben, ça fait pour démarrer et ensuite on met des plus gros morceaux, et ce qui fait que rien n'est perdu. Si on a vendu les troncs des chênes, il reste la frâche, comme on disait tout à l'heure, mais c'est quand même du bon bois.
Et ce qui est intéressant donc, pour nos auditeurs, c'est qu'on a effectivement coupé du bois suite à des gens qui avaient acheté les troncs. Mmh. Nous, on a pris effectivement pour faire des bûches, et on a encore quelqu'un qui prenait du plus petit bois. Voilà. Et c'était pour quel usage?
Alors, le petit bois, c'est ce qu'on appelle la charbonnette. Et donc, c'est un retraité qui la prend, et après, il la revend aux boulangers ou aux pizzaiolos qui ont des fours à bois. Et ça sert à faire cuire les pizzas.
Donc après, c'est pour les fours à pain, donc voilà. Ce qui veut dire qu'on a effectivement le tronc qui est commercialisé, le bois de chauffage, voilà. Et la petite charbonnette pour les pizzas.
C'est ça, rien ne se perd.
Et dernière question, est-ce que tu peux nous donner une recette que tu aimes particulièrement faire avec ta cuisinière à bois et qui est meilleure avec cette cuisson?
Oui, alors j'ai une spécialité, c'est le cuisseau de sanglier ou de chevreuil que je fais tous les ans pour le réveillon. Et donc je le fais cuire dans une cocotte en fonte dans le four de la cuisinière pendant 2 heures, 2 heures et demie, jusqu'à même 3 heures à feu doux. Et c'est délicieux, voilà. Et ça consomme 5 morceaux de bois.
Ouais, voilà, donc on fait du bois de septembre à décembre, mais en décembre on peut manger.
Voilà,
c'est bon. Ça. Et ben merci Laurent, et puis à très bientôt pour te donner un coup de main à faire du bois.
Voilà, c'est avec plaisir.
Si tu étais un arbre, mon amour, je te ferais sapin, sapin, sapin pour faire un mât. Si tu étais un arbre, mon amour, je te ferais sapin, sapin droit et le pied marin. Si tu étais un arbre, mon amour, je te ferais boulot, boulot, boulot pour faire la coque. Si tu étais un arbre, mon amour, je te ferais boulot, boulot pour le pont du bateau.
Merci les amis de vivre cette rentrée avec nous. Allez, agenda grangesque. On se retrouve le 28 septembre à Saint-Julien-sur-Essouze pour l'accueil des bénévoles dès 14h. On parlera programmation, solidarité et calendrier de l'aventure. Le soir, spectacle en partenariat avec le Théâtre de Bourg pour le concert à la salle des fêtes de Saint-Julien. Bisous, bisous.
Ciao, ciao.
Bye, bye.
Salut.
J'étais là.
Briques et pavés, pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange au Parapluie.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.